La fiancée morte, par Henri de Verstackpool. Mineur à Mayotte me dit « Si vous avez lu l'ouvrage de M. Seabrook sur Haïti, l'île magique, vous avez dû certainement être impressionné par le chapitre intitulé « Où l'on voit des morts travaillant comme un champ de canne à sucre ». Comme j'en parlais récemment à M. Travers, le célèbre médecin neurologiste de Genève, d'origine américaine, qui a longtemps étudié les Antilles et l'esprit nègre, il me répondit « Et pourquoi cela n'existera-t-il pas ?»« Parce que, répliquai-je, la chose est matériellement impossible. Il serait beaucoup plus simple d'utiliser un des robots de Karel Capek que de prendre un cadavre humain, de lui fournir l'énergie motrice et de le transformer en esclave. Vous n'ignorez pas les changements qui affectent nos tissus après la mort. La magie même a délimité un moment. » Interrompait Mineur à Mayotte. J'ai cité le livre de M. Seabrook pour confirmer l'histoire que je me proposais de vous raconter. Veuillez en attendre la fin avant de prononcer votre jugement. Alors M. Amayat me rapporta le récit de M. Travers, que je transcris de ma propre plume. Voilà bien longtemps, dans ma jeunesse, j'habitais Saint-Pierre de la Martinique. Saint-Pierre, de nos jours un monceau de cendres, tranchait nettement alors sur toutes les villes du monde. Elle était gaie comme Paris et rappelait quelque peu la Nouvelle-Orléans. Ses antiques maisons à la française, teintée de jaune et protégée par l'ombre des palmiers contre l'azur brûlant du ciel, dominait une baie de saphir rarement agitée par les vents violents et la houle qui tourmente le côté nord-est de l'île. À cette époque, je vivais dans la rue Victor Hugo, qui traversait la ville dans toute sa longueur. Je n'avais qu'à m'avancer sur mon balcon pour voir grouiller sous mes yeux une foule plus étonnante que les visions féeriques des mille et une nuits, des gens de toutes couleurs, des femmes joyeuses comme des oiseaux des tropiques, des badauds, des groupes de bavards, des chanteurs des rues, des vendeurs ambulants de fruits, poissons, pâtisseries et Dieu sait quoi encore. Une scène de bazar rendue irréelle par le charme qui s'en dégageait. Mon appartement se composait de trois pièces et j'avais pour domestique un nommé Baldo, jeune et beau créole aux yeux noirs, d'une honnêteté scrupuleuse et entièrement dévouée à ma personne. Il s'occupait de tous les achats, sans me voler d'un penny, me choisissait les plus savoureux sapotas et poires avocats de tout le marché, et le café qu'il me préparait était le meilleur de toute la Martinique. Cet homme ne me quittait pas d'une semelle, sauf le dimanche. Sa bonne amie, Finotte, habitait à quelque distance de Morne-Rouge, vers Grand-Anse, ville située sur la côte au nord-est et à une trentaine de kilomètres de Saint-Pierre. Chaque dimanche, Baldo s'évanouissait dès l'aube et suivait à pied la grande route nationale La Trace, qui serpentant comme un ruban par mont et par beau, à travers des champs de cacaoyers et de canne à sucre, l'amenait chez Finotte. Le lendemain matin, à 8 heures précises, il entrait dans ma chambre à coucher, remontait le store et m'apportait mon café. « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, Baldo. Et comment va Finotte ?» Je redoutais Finotte et le jour prochain où, immanquablement, le mariage l'unirait à Baldo et me priverait de mon serviteur. La perte d'un si bon domestique n'est certainement pas un grand malheur. Cependant, Baldo n'avait rien d'un esservelé. Il économisait sou par sou et baptisait son nid à la manière d'un oiseau, à cela près qu'il employait des francs au lieu de brindilles et de plumes. D'après ses confidences, l'heureux événement, néfaste pour moi, ne se produirait pas avant une année. Finotte viendrait alors s'installer dans une petite boutique de la rue du Morne-Mirail, que son fiancé avait choisi comme leur future demeure. Mais voilà, un lundi matin, Baldo ne rejoignit pas mon domicile. Il reparut le mercredi suivant, mais j'eus peine à le reconnaître tant il avait vieilli. « Bonjour, monsieur. »«
Bonjour, Baldo.
Et comment va Finotte ?» Il leva les bras sans répondre, et je compris par ce geste que la jeune fille était morte ou irrémédiablement perdue pour lui. Comme d'habitude, il me prépara mon café et brossa mes habits. Au bout d'un moment, Baldo finit par me conter toute l'histoire. J'avais deviné juste. Finotte n'était plus. Ce dimanche-là, il l'avait trouvée à l'agonie. Maintenant, elle était morte et enterrée. Quelle maladie l'avait emportée ? Lui-même n'aurait su le dire. Elle était morte, voilà tout. Il avait assisté à son inhumation et repris ensuite le chemin de ma maison. Il continua son service auprès de moi. Que faire d'autre? sinon s'abîmer dans la mort, mais Baldon n'était pas enclin au suicide. Un mois passa. Le carnaval se déroula avec ses orgies et ses tambours, et fut interrompu brusquement par le carême. Environ 4 semaines après, je surpris Baldo sur le seuil d'une porte, dans la rue, en conversation avec une vieille femme, une capresse, toute ridée, elle était enveloppée d'un foulard. C'était maman Robert, la mère de Finotte. Avec un regard que je ne lui avais jamais vu, un regard lointain aussi troublant que son attitude, Baldo paraissait en effet complètement détaché de la vie réelle. Il m'apprit qu'il devait me quitter pendant un certain temps, mais serait de retour bientôt, espérait-il. Il s'en alla 2 jours après. Sans avoir besoin de le suivre, je savais qu'il prendrait, comme maintes fois auparavant, la grande route nationale menant vers Grandanse et à l'ancienne demeure de sa fiancée. Tout le monde se connaissait à Saint-Pierre. Les lavandières de la rivière Oxalane, les fruitiers du marché près du fort, les vieilles vendeuses de casseroles au coin des rues, formaient une immense confrérie où se colportaient toutes les rumeurs de la ville. Dès l'incident survenu à l'aube dans la rue du Morne-Mirail se répandait à midi rue Victor Hugo, puis le soir au fond de mer. Aussi l'histoire de Baldo voyagea sur les ailes du vent, mais aucun écho ne m'en parvint jusqu'au jour où une porteuse, descendue des montagnes, s'arrêta pour tailler une bavette avec Madame Jeanne, ma logeuse, et lui donna des nouvelles de Baldo. Je dois ici vous expliquer ce que sont, ou plutôt hélas, qu'étaient les porteuses de ce temps-là. Nu-pieds et la tête chargée d'un gros ballot, elles transportaient les marchandises de Saint-Pierre dans toute l'île, jusqu'au plus petit village, et cette femme, venant du nord-est, avait aperçu Baldo près de Grandanse. L'air à demi sauvage, il vivait sur la plantation d'un créole nommé Jean Labatte et faisait pitié à voir. Voilà ce que nous apprit la porteuse. Dire que Baldo, ce garçon ingénieux, si bien stylé et qui m'aimait tant, était tombé dans cet état lamentable. L'affection d'un bon domestique pour son maître et vice-versa diffère de toutes les autres formes d'attachement. Ces mots, il faisait pitié à voir, prononcés par la porteuse, semblaient s'adresser à moi, comme si elle m'eût dit « Pouvez-vous faire quelque chose pour lui ?» Prenant la chose à cœur, je résolus d'aller à Grandanse, de fouiller le pays jusqu'à ce que j'eusse découvert Baldo. J'essaierai de le faire revenir à lui, et si possible, à mon service. Je préparai mon sac de voyage, louai un cabriolet à 2 chevaux et me mis en route dès le lendemain. Saint-Pierre ne se trouve qu'à 30 kilomètres de Grandanse, mais la distance paraît longue, car la route nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, serpente par monts et par vaux. Les freins gémissent et les chevaux peinent durant une bonne partie du trajet. Néanmoins, nulle route au monde n'offre un pareil paysage. Les mornes pourpres, les horizons bleus, les champs de canne à sucre et les futaies de balisiers, de palmiers et d'acajou s'étendent sous une lumière crue qui participe en quelque sorte de la mélancolie nocturne. Aux yeux de l'Européen, ce pays renferme des choses inconnues, à demi connues ou vaguement soupçonnées. Sous ces débauches de couleurs se cachent le poison du mentionnelier, le mille-pattes et le fer de lance. Le venin de certaines plantes engendre la mort, le délire ou la folie, et d'anciennes superstitions transplantées des côtes lointaines de l'Afrique, mais qui prennent fortement racine ici. Grandanse est un bourg accroché sur la côte. Les falaises mesurent plusieurs centaines de pieds de hauteur et la grève de sable noir est presque continuellement battue par un tumultueux ressac. On y voit 2 promontoires, la pointe de Rocher et la pointe de Croche-Mort. Telle est Grandanse. Je descendis dans la principale auberge, et vers la fin de la journée, je procédai à mon enquête au sujet de Baldo. Personne ne le connaissait. Les gens de Saint-Pierre compatissaient volontiers à son sort parce qu'il était natif de cette ville, mais chez les habitants de Grandanse, il n'éveillait aucune espèce d'intérêt. Je m'inquiétais alors de trouver maman Robert, la mère de Finotte. Ah oui, Finotte, la jeune fille qui était morte voilà quelque temps. Elle et sa mère vivaient au petit hameau de Mirail, non loin de la plantation de Jean Labatte. La mère y demeurait toujours. Un silence provoqué par le nom de Jean Labatte, dont le champ de canne à sucre s'étendait à proximité du village. On le détestait et on le craignait à la fois. Je le devinais tout de suite en voyant les visages, les haussements d'épaules, les mouvements de recul des gens au simple énoncé de son patronyme. Il faisait pousser des cacaoyers, de la canne à sucre et possédait une distillerie, une romerie, mais personne ne pénétrait dans sa propriété. Quelqu'un voulait-il me conduire chez la mère de Finotte? Non, Elle habitait à trop peu de distance de la plantation et Jean Labatte avait des chiens. Malgré les chiens, j'aurais tenté moi-même de découvrir l'endroit, persuadé que la brave femme m'eût mis sur la piste de Baldo, mais le hasard en décida autrement. Le second soir de mon arrivée à Grand'Anse, j'étais allé me promener sur la grève noire pour assister au retour du flot sous les derniers rayons du soleil. La nuit tombant précipitamment, je me mis à grimper le sentier abrupt qui, de la grève, conduit au monticule formant la pointe du rocher. La nuit sans lune fourmillait d'étoiles. J'avais l'intention d'atteindre le sommet du promontoire, de jeter un coup d'œil sur ce monde baigné de clarté stellaire, puis de revenir à Grand'Anse par un sentier de chèvres tracé dans le basalte. Toutes les lumières étaient éteintes dans la petite ville, où chacun rentre chez soi dès les premières ombres, mais j'étais sûr de trouver l'auberge encore ouverte. À mi-chemin, je m'arrêtai net. Sur la ligne du ciel se détachait la silhouette de deux hommes, l'un de forte stature et l'autre de taille moyenne, qui ouvraient la marche. Tout à coup, ils firent halte eux aussi. Je craignis un instant qu'ils ne m'eussent aperçu, mais je me trompais. Au bout de quelques secondes, le plus petit des deux inconnus désigna du doigt l'endroit où le monticule rejoignait l'extrémité de la falaise, surplombant les vagues à une hauteur de 120 mètres. Au geste de son compagnon, l'autre alla droit dans la direction indiquée. Jamais je n'avais vu un bipède de la sorte. Il levait les pieds et se démenait tel un automate mu par un ressort et non comme un être humain avançant de sa propre volonté. Il continua ainsi jusqu'au bord de la falaise qu'il enjamba. Puis, plus rien que la nuit, les étoiles et le rugissement des flots et l'autre homme. En l'espèce, Baldo. Je le reconnus au moment où il se profilait nettement à l'horizon. Quand il parvint au bord du précipice, il se pencha, les bras croisés, et contempla la mer. Je retrouvai enfin mon domestique. Mais, Dieu du ciel, que signifiait tout cela? De tempérament, je suis plutôt pusillanime. Néanmoins, je sais déployer suffisamment de courage quand il s'agit d'une bonne cause exigeant une décision immédiate. Décidé à en avoir le cœur net, je poursuivis mon ascension et j'arrivai au sommet du promontoire à la seconde même où Baldo, faisant demi-tour, venait vers moi. À ma vue, il ne s'arrêta pas, tellement le personnage surgi de l'ombre lui paraissait indifférent. Cependant, une fois plus près de moi, il put distinguer mes traits. « Baldo ! » m'exclamai-je. « Que faites-vous ici ?» Il demeura un instant interloqué, puis il poussa un soupir comme s'il sortait d'un profond sommeil. « C'est moi, Baldo, » répondit-il. « Avez-vous vu cet homme? Il faut que je vous parle de lui-même et de moi. » À cet instant, Baldo ne représentait plus à mes yeux un vulgaire domestique, mais un être sur un pied d'égalité avec moi-même, et qui, ému par le souvenir du passé, jugeait utile de me confier ses affaires intimes. M'ayant mis au courant de ses relations avec Finot, il croyait devoir me révéler ses vicissitudes qui venaient d'atteindre leur paroxysme dans l'étonnante tragédie de tout à l'heure. Il prit le sentier de chèvres et me conduisit le long de la pente. Arrivé devant un bouquet de fougères qui nous abritait du vent, Baldo s'assit sur le sol et me fit signe d'approcher. « À Saint-Pierre, me dit-il, vous m'avez témoigné tant de bonté que je n'ai pas hésité à vous ouvrir mon cœur. Vous vous rappelez que chaque dimanche, parti avant l'aube, je venais ici à l'heure où le cabribois emplissait la forêt de ses cris. Un jour, je trouvai ma fiancée à l'article de la mort. Sa mère, maman Robert, ne put m'apprendre quelle maladie avait frappé ma pauvre Finotte, et maman Fally, qui soigne comme un médecin tous les ouvriers des parages, prétendit que la jeune fille avait contracté la fièvre des bois. Toujours est-il qu'elle succomba. Mais souvenez-vous bien de tout ceci. Je vous le raconte afin d'empêcher mon esprit de s'égarer comme quelqu'un qui suit, dans l'obscurité, un fil conducteur. Ce que je veux vous dire appartient en effet au domaine de ténèbres plus épaisses que la nuit. Je revins chez vous et le temps passa. Non que je tinsse à la vie, mais je ne pouvais prendre un autre parti. Il est difficile de perdre l'habitude de vivre, même quand cette habitude devient insupportable. Je repris donc mes occupations absolument comme un mort poursuivrait sa tâche. Supposer que par miracle, ses membres fussent encore animés d'un léger souffle vital. Un soir, Cyrilla, la fille de la cabaretière chez qui vous êtes descendu, m'appela. « Monsieur Baldo, quelqu'un désire vous parler. » La mère de ma fiancée, Madame Robert, m'attendait à la porte. « Que me voulez-vous ? Je veux vous parler de Finotte, « Eh bien, qu'avez-vous à me dire ?»« Je soupçonnais que la vieille cherchait à me soutirer de l'argent, à la manière de certains beaux-parents, qui, dans ces circonstances, exploitent votre bon cœur, mais je me trompais sur son compte. Je viens vous voir de la part de Finotte et vous emmener auprès d'elle. »« M'emmener auprès d'elle ?» Ces paroles firent courir un frisson sur tout mon corps. J'avais vu enterrer Finotte au cimetière près du bosquet de palmiers, non loin de sa demeure, où nous nous rendions parfois le dimanche, pour regarder les tombes et nous dire en nous-mêmes « Sans doute, quelques jours, dormirons-nous également ici notre dernier sommeil. » Car en ce qui me concerne, je n'avais nulle intention de me faire inhumer à Saint-Pierre. Incapable de lui répondre, je laissais parler la vieille. Cependant, au bout d'un moment, mes lèvres prononcèrent ces mots. « Très bien, mais pas maintenant. Allez-vous-en. J'irai tout à l'heure. » Vous vous en souvenez? Je ne vous ai pas quitté aussitôt la visite de la vieille. À vrai dire, elle me faisait peur. Peut-être, songeais-je, n'est-elle pas une femme, mais une zombie venue pour me trahir et me voler mon âme. Pourtant, je la connaissais parfaitement. Comment ne connaîtrait-elle pas la mère de sa belle? Mais l'esprit de l'homme est bizarre et rempli de crainte dans les ténèbres de l'inconnu. Repoussant ces pensées au fond de moi-même, je partis sans tarder. Habituellement, je faisais la route à pied et m'en allais dès l'aube afin d'arriver aux premières heures du jour. J'aurais pu prendre le courrier à Morne-Rouge, mais je préférais marcher. Je traversais donc Morne-Rouge, longeais la route de la Calebasse, passais par Ajoupa-Bouillon et la rivière de la Falaise, m'arrêtant seulement sous le grand gommier qui marque l'endroit où le sentier du village rejoint la route nationale. Après une heure de repos, à l'ombre de cet arbre, à midi passé, je montais le petit chemin en quête de la maison de Maman Robert. Située près des champs de cacaoyers, une grande forêt de balisiers la protège du vent alisé. Comme dans un coquillage, on peut entendre la voix de la mer sur la grève de Grandanse, et de temps à autre, provenant du bois, l'appel du siffleur de montagne. De l'autre côté des champs de cacaoyers se trouve la romerie, ou distillerie, et un peu plus loin, l'habitation de Jean Labatte. Tout cela à 2 kilomètres d'ici, et le cimetière en question est à 500 mètres de chez Maman Robert. Je rencontrai la vieille femme à la maison, mais elle ne voulut me fournir aucune explication sur l'affaire qui m'amenait. Tout au plus, se borna-t-elle à me dire « Je vous conduirai là-bas après la tombée de la nuit. » Ce moment arrivé, la lune se montra. Après m'avoir guidé parmi l'ombre des arbres, Maman Robert longea un champ cultivé et parvint dans un terrain stérile où poussaient seulement des cannes à sucre sauvages et de la lèche. Devant nous s'étendait un champ de manioc. Levant un doigt, la vieille me dit « Chut, écoutez !» Je n'entendis que le murmure des cannes à sucre dans le vent et la voix de la mer très loin de nous. De nouveau, Maman Robert m'avertit « Écoutez !» Je ne perçus cette fois que le cri d'un oiseau de nuit, de l'autre côté du champ de manioc et à une grande distance. Un cliquetis de ferraille, puis des ombres, suivi à quelques mètres par un jeune garçon armé d'un aiguillon destiné à piquer les bœufs, contournèrent le champ de cannes à sucre en brisant les mottes de terre avec leurs houes. Je distinguais 4 formes humaines sous la clarté lunaire. 3 hommes et 1 femme. Ils n'avaient rien d'humain dans leur démarche. On eût dit des fuseaux en plein fonctionnement dans une filature de coton, et ils paraissaient entièrement privés de raison. La femme était Finotte, à l'enterrement de qui j'avais assisté en personne, et le plus grand des hommes s'appelait Jacquin, décédé 6 mois auparavant. Devant ce spectacle, je conservais tout mon sang-froid. Car je savais de quoi il retournait. Moi, Baldo, je ne suis pas un ignorant. Je connais la cérémonie qui ressemble à ce qu'on nomme ici le culte des morts. Voici comment on procède. On fait prendre à un homme un breuvage qui lui donne la fièvre. Il meurt, on l'enterre. Mais en réalité, il n'est pas mort. Il dort sans respirer. Ses parents le pleurent, le descendent dans sa tombe et l'y abandonnent. Des méchants viennent alors l'exhumer. Ils recouvrent le souffle. Cependant, il n'est pas vivant comme vous et moi. Son esprit l'a quitté, la drogue ayant détruit son cerveau. Il peut entendre et obéir. Mais il demeure incapable de penser. Ils font le bois, tirent de l'eau, labourent les champs, coupent la canne à sucre, sans le moindre effort cérébral, sans dire un mot, et ne reçoit pour tout salaire qu'une poignée de nourriture. Ah, Jean Labatte, maudit soit le jour où tu as enlevé la fiancée de Baldo pour la transformer en cadavre. Mais justice est faite maintenant. Viens, ordonnai-je à la femme, qui cramponnait à moi, me désignait la scène du doigt. Notre place n'est point ici. Conduis-moi chez Maman Fali, la marchande d'herbe qui a contribué à tuer ta fille, ma fiancée de jadis. Je savais ce que j'avançais, car mon esprit venait d'entrevoir un vautour. Je frappai à la porte de la petite maison où vivait la sorcière. Quand elle m'ouvrit, je lui mis mon couteau sous la gorge et elle me conta toute l'histoire. « Allons, m'écriai-je, la drogue, je veux cette drogue. Prépare-la à l'instant même où tu es morte. » Elle l'avait déjà confectionnée et elle me tendit le récipient. Si elle ne produit pas l'effet attendu, je ne te manquerai pas à moi. « N'ayez crainte, me répondit-elle, ma drogue est infaillible. » Devant cet aveu, je lui enfonçai ma lame dans le cœur et pris d'une rage folle. Je me précipitai chez Jean Labatte, qui vivait seul avec une conscience chargée de crime. Je frappai à sa porte. À peine l'avait-il ouverte, que je dirigeai sur lui mon couteau et l'acculai au fond d'une pièce. Cet homme était un colosse, mais sa perversité en faisait un lâche. Je l'obligeai à s'étendre par terre. Il préféra la drogue à la mort immédiate. Impossible de tricher, car je le tenais sous la menace de mon couteau. La fièvre apparut avant l'aube. Je demeurai auprès de lui jusqu'à l'arrivée de son domestique, puis je m'éloignai. Ensuite, j'appelai à moi tous les hommes de la plantation et leur reprochai leur forfait. Ils prirent la fuite, et je n'entendis plus que le chant des coqs, le claquement des portes sous la poussée du vent et le bruit des grandes mille pattes trempant sur les murs de la romerie. Il ne restait que les trois hommes morts et Finette dans le hangar où ils se reposaient après leur travail, et moi, Baldo et Jean Labatte. J'avais songé à en faire mon jouet, puis à le métamorphoser en esclave. Mais peut-on jouer avec un homme-machine? Ce soir, il est allé sur mon ordre se noyer dans la mer. Il n'était plus bon qu'à cela. Et les trois hommes et la jeune fille? Baldo éclata de rire, se leva, et disparut sans me dire adieu. Bien qu'il n'eût pas répondu à ma question, j'en conclus que les quatre automates ne travailleraient plus désormais sur la plantation. Baldo s'engagea dans le sentier de chèvres et passa entre les arbres à la naissance du promontoire. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Ainsi s'achève La fiancée morte par Henri de Verstappenpoel.